jusqu'à 19h. Cap Sport. On enfile les patins ce soir dans Cap Sport. La Coupe de Suisse de hockey sur glace a souri à deux clubs de l'arc jurassien le week-end dernier. Le HC Ajoie et le HC Bienne se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. On débattra de l'impact financier de cette coupe et de la manière dont les clubs de National et de Swiss League l'abordent. Et puis en seconde partie d'émission, on ira à la rencontre de Ryan Baumann, le jurassien qui s'est illustré dernièrement dans la Diagonale des Fous, la célèbre course d'ultra-trail disputée sur l'île de la Réunion. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Sport. Avec moi ce soir, Jérémy Pignard, bonsoir.
Salut Yannick, bonsoir à tous.
Alors Jérémy, on l'a dit, on aura deux clubs de la région en quart de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace.
Oui, statistiquement, ça veut dire 25% de chance de la remporter, cette coupe, qu'elle finisse chez nous. Mais malheureusement, le sport, vous le savez Yannick, ne répond pas toujours à la logique apparente des chiffres. Plus sérieusement, le HC Bienne, club de National League ou de Liga, est qualifié. Les Célandais sont allés gagner à Olten dimanche dernier 4-3 après prolongation. Et puis, la grosse surprise, elle est venue du HC Ajoie, tombeur des ZSC Lions, un match de dingue, 4-4 dans le temps réglementaire et victoire des Jurassiens au tir au but. Ajoie qui avait déjà sorti une équipe de National League, en l'occurrence Lausanne au tour précédent, et qui affrontera encore une formation de National League Langnau en quart. Pour Bienne, c'est un chaud derby qui se profile à domicile face à Berne. On a aussi l'exemple de Rapperswil, autre club de Swiss League, qui a tapé Lugano 3-0, qui est quand même deuxième de National League actuellement. Et du coup, Yannick, on se demande si les équipes de première et deuxième division abordent cette compétition de la même manière et surtout avec la même envie.
Oui, éventuellement. Pourquoi cette coupe intéresserait davantage les petits que les gros? Pour en débattre, on accueille ce soir Jordan Howard, capitaine du HCA. Bonsoir Jordan.
Bonsoir.
Et on accueille également la vice-présidente du HC Bienne, Stéphanie Méria, qui est avec nous en direct de la Tissot Arena. Bonsoir.
Bonsoir.
Sur les 8 premiers matchs de Liga, on constate que, enfin sur les 8 premiers de la Liga, pardon, on constate que 4 clubs sont déjà passés à la trappe dans cette Coupe de Suisse, Lugano, Zurich, Fribourg, Lausanne. On va commencer avec vous, Jordan Howard. Est-ce que vous avez senti, quand vous avez joué Lausanne et Zurich, qu'ils ne vous avaient pas forcément pris au sérieux ou qu'ils étaient un petit peu moins engagés sur ces matchs de Coupe?
Alors écoutez, contre Lausanne, j'étais malheureusement blessé. Par contre, contre Zurich, j'ai pas l'impression qu'ils nous ont sous-estimés, car ils sont quand même venus avec une grosse équipe. Je pense que le ressenti, c'est sûr qu'une équipe d'un étage supérieur a plus de mal à s'adapter quand elle joue contre une équipe d'un niveau inférieur. Donc nous, on s'adapte plus facilement à la Liga et la Première Ligue s'adapterait, je pense, plus facilement. Pour jouer contre nous, on aurait peut-être plus de peine, car le jeu est quand même moins fluide d'un niveau à l'autre. Mais après, je pense que Zurich, physiquement, n'ont pas joué de la même manière qu'ils jouent en championnat non plus. Il faut quand même être honnête, même si le match était quand même d'une grande intensité.
Et Stéphanie Méria, on a l'impression que du côté du HC Bienne, on joue cette coupe à fond. Est-ce que pour un club qui a peut-être un peu moins de chances de se mêler à la lutte pour le titre en championnat, la coupe est un objectif majeur?
Alors, un objectif majeur, je ne sais pas. L'objectif, c'est de toute façon de gagner, de jouer et puis de jouer bien. Maintenant, financièrement, il faut le dire aussi, c'est quand même un petit peu intéressant pour les clubs qui participent à la Coupe. Nous, une chose est sûre, c'est qu'on a remarqué qu'on est dans une phase où on a un petit peu une perte de confiance. Donc, on ne peut pas se permettre de galvauder un match. Et c'est absolument pas ce qu'on a fait. Malheureusement, à Walton, ça a été compliqué parce qu'on a bien commencé. Et puis après, il y a eu cette espèce de doute qui s'est instauré. Et puis, on a eu toutes les peines du monde, finalement, à se défaire d'Walton qui en voulait, quoi, qui en voulait vraiment.
Stéphanie Méria, justement, vous parlez d'impact financier. Il est important, la Coupe, elle a ça de bien pour les clubs ou de seconde zone de National League ou les clubs de Ligue B. C'est quoi les sommes qui sont en jeu?
Alors, je ne peux pas vous parler de sommes en règle générale, mais c'est vrai que c'est des montants qui sont toujours agréables à prendre quand on a une équipe qui a un budget limité. Nous, c'est vrai que ça nous arrange de pouvoir se dire, bon, ben, si on arrive à avoir quelques sous en plus, peut-être qu'à moyen terme, on aura un joueur de plus. Et c'est intéressant pour nous, où on est toujours un petit peu aux limites, quoi.
Et puis Jordan Howard, cet aspect financier de la Coupe de Suisse, est-ce que les dirigeants en parlent aux joueurs? Vous aviez par exemple à l'esprit en jouant contre Zurich qu'en se qualifiant pour les quarts de finale, ça ferait un petit bonus pour le club?
Bien sûr, après nous on n'est pas au courant des sommes exactes non plus parce que c'est pas notre travail. Mais le comité nous a promis un petit plus dans notre caisse d'équipe si on gagnait ce match contre Zurich. Donc j'imagine que pour le club, ça va quand même être un enjeu important, surtout un petit club comme nous, avec un petit budget comme on a. Et dans la région où on est, le moindre argent est toujours bon à prendre.
Bah justement, l'importance financière de la Coupe pour un club de Ligue B, on en a parlé avec Gérard Scheidegger, le directeur général du HC La Chaux-de-Fonds. Le club a été éliminé en 16e de finale de la Coupe de Suisse par le HC Viège. Mais Gérard Scheidegger qui nous confiait il y a quelques instants seulement au téléphone que l'impact financier de la Coupe était important pour un club comme le HCC. On l'écoute.
C'est une manne super importante, non seulement pour les clubs de Swiss League, mais également pour les clubs de Premier League. Pour nous, c'est vrai que chaque participant reçoit 20 000 francs par tour, ça c'est une chose. Mais ensuite, si vous avez l'opportunité, comme Ajoie, de recevoir des clubs tels que Zurich, ou nous, admettons que si on avait passé le tour contre Liège, on aurait reçu Davos, ça peut représenter entre 60 et 100 000 francs par tour.
Ce qui veut dire que c'est conséquent dans les caisses d'un club ?
Évidemment, alors c'est à savoir, est-ce qu'on budgétise ce montant ou est-ce que c'est un montant en plus du budget ? Nous, on cherche, du côté de la Chaux-de-Fonds, on cherche d'avoir cette manne financière hors du budget, ce qui est beaucoup plus prudent, évidemment. C'est ce qui nous aurait permis peut-être d'agir sur le marché des transferts en conséquence. Donc, évidemment qu'on regrette le fait d'avoir été éliminé face à Liège, ce qui nous empêche un petit peu d'être peut-être un peu plus libre sur le marché des transferts dans le courant du mois d'octobre-novembre. Donc, automatiquement, nous devons rechercher d'autres ressources financières.
Stéphanie Méria, vice-présidente du HCBN, c'est intéressant ce que nous dit Gérard Scheidegger. Est-ce que effectivement faire un bon parcours en coupe, ça peut autoriser quelques extras, aller chercher au cœur de l'hiver un joueur qu'on n'aurait peut-être pas pu se payer en temps normal ? Est-ce qu'effectivement ça existe même pour un club de Liga ?
Ah ben évidemment, alors je vous parle peut-être pas d'un club de Liga qui a un gros budget, mais nous c'est effectivement le cas. On part avec un budget, on sait l'équipe qu'on va avoir. Maintenant c'est dans le courant de l'année, on a des événements heureux, c'est-à-dire qu'on a une affluence qui est supérieure, qu'on a des revenus supplémentaires. Forcément, nous, tous les revenus supplémentaires qu'on va avoir, on va les mettre sur la glace. Donc, c'est toujours bienvenu. Surtout si, là, comme maintenant, on a un petit peu des blessés, ce genre de choses, on cherche toujours un petit peu à savoir comment on peut renforcer l'équipe.
Et vous avez ce sentiment, Stéphanie Méria, que le HCBN, par exemple, s'intéresse peut-être plus à cette coupe que des grosses cylindrées comme Zurich, comme Berne, par exemple, ou alors c'est pas une vérité de dire les petits s'y intéressent plus que les gros?
C'est difficile à dire, je ne suis pas dans les patins ni de Zurich ni de Berne, donc c'est un petit peu compliqué à vous dire ça exactement. Mais après, c'est une question d'attitude. Nous, on part du principe que chaque match doit être pris sérieusement et puis avec beaucoup d'ambition. Et parce que c'est un état d'esprit qu'on doit avoir tout le temps, quoi. On n'a pas de match qu'on peut prendre à la légère parce que tout simplement, on n'a pas le niveau pour se dire... on est tranquille, on va de toute façon réussir à gagner ce match. Et chez nous, ça nous arrive jamais, quoi. Mmh. Et chaque point est important. Donc, pour la confiance, pour le roulement de l'équipe, c'est vrai qu'on prend tout match sérieusement, quoi.
Et puis Jordan Howard, pour un club de Swiss League comme l'est le HC Ajoie, est-ce que la Coupe, c'est aussi une vitrine, aussi peut-être individuellement pour les joueurs? On se dit que peut-être c'est là qu'on peut se faire remarquer par des clubs de National League.
Évidemment que c'est une vitrine pour chaque joueur parce qu'on a toujours hâte de bien faire encore plus quand on joue contre un club de Liga. Et d'un autre côté, c'est aussi une fierté de pouvoir montrer à nos partisans qu'on est capable de rivaliser avec ce genre d'équipe. Donc moi, je pense que pour des clubs de Swiss League, c'est que du bénéfice, si vous voulez, dans tous les sens du terme, autant pour les spectateurs que pour l'entraîneur qui peut aussi se mettre en vitrine et montrer ses tactiques de jeu, que pour les joueurs au niveau d'un individuel pour essayer de grappiller un échelon supérieur.
Jordan, il y a un discours des dirigeants, par exemple du président qui en l'occurrence est votre papa, au HC Ajoie, pour justement dire ce quart de finale contre Langnau, ça va être quelque chose d'important, ça peut nous permettre de faire des choses financières au niveau du club. Est-ce que ce discours-là, on l'entend?
Alors, ce qu'il faut savoir avec le président, c'est que le discours, il est de base que chaque match, on doit le gagner. Donc que ça soit Langnau,
comme moi je sais bien,
tous les matchs sont faits pour être gagnés. Donc le discours n'est pas, ils nous mettent pas une pression supplémentaire. On a juste à jouer notre match et puis prendre du plaisir de pouvoir se confronter à une équipe de Liga. Après c'est sûr que c'est tout bon pour eux si on arrive à passer Langnau en quart de finale.
Je vous propose justement qu'on essaye de se projeter rapidement sur les quarts de finale. Stéphanie Méria, tirer le CP Berne, c'est le pire tirage ou au contraire, vous vous en réjouissez de jouer ce derby à la maison?
Un derby à la maison contre Berne, c'est toujours un bonheur. Alors on sait que le match va être difficile, mais on sait qu'il va y avoir de l'ambiance, on sait qu'il va y avoir du monde, donc l'équipe sera soutenue à fond, parce que forcément, c'est les derbies, c'est Berne, et puis c'est toujours une équipe qu'on se prend un plaisir d'essayer de battre, quoi. Donc non, du bonheur, du bonheur.
Et il y a la magie de la coupe, sur un match contre Berne, on peut espérer, sur 8, c'est plus compliqué.
C'est ça. On l'a vu l'année dernière, de temps en temps sur un match ça pouvait le faire, mais c'est vrai que sur 7 c'était plus compliqué, quoi.
Et puis du côté du HC Ajoie, Jordan Awert, on l'a dit, vous recevez Langnau. Alors sur le papier c'est peut-être un petit peu moins clinquant que Lausanne ou Zurich, mais est-ce que justement le danger n'est pas là, justement?
Ben, je ne sais pas comment Langnau va aborder ce match, je ne sais pas s'ils vont le prendre au sérieux ou si comme bien ils vont jouer tous les matchs pour les gagner, financièrement si c'est bien pour eux aussi, je pense qu'ils ont quand même quelque chose à gagner, étant donné que c'est un des plus petits budgets de Liga de ce que je connais, donc je ne sais pas du tout dans quelle configuration ils vont venir jouer ce match. Après nous, on va jouer ce match comme on l'a joué contre Zurich, en donnant tout ce qu'on a sur la glace et puis en faisant plaisir à nos partisans, puis si ça passe, ben c'est que du bonus pour nous, puis si parfois on échoue, ben on aura quand même fait un beau parcours de Coupe Suisse.
Mais a priori, Jordan Langnau sait qu'ils ne peuvent pas se mêler à la lutte sérieusement pour le titre en championnat. Donc on peut imaginer que pour un club comme Langnau, effectivement, la Coupe est une belle vitrine pour sauver la saison ou entre guillemets, vraiment se faire voir, quoi.
Bien sûr, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a énormément de blessés dans les deux catégories de jeu depuis le début de la saison. Donc il faut quand même être prudent et ne pas prendre de risques non plus en allant se blesser entre guillemets contre une équipe de Swiss League. Donc moi je vous dis, je sais vraiment pas dans quelle configuration ils vont venir, mais de toute façon nous on sera prêt à les accueillir.
Et bien rendez-vous dans un peu moins d'un mois, ce sera le 21 novembre pour ces quarts de finale. Merci beaucoup Stéphanie Meria et Jordan Howard d'avoir accepté notre invitation dans Cap Sport.
Merci
beaucoup, très bonne soirée et puis bon match à vous Stéphanie Meria, parce que vous êtes à Bienne à la patinoire de la Tissot Arena et vous affrontez Zurich ce soir à 19h45, ce sera aussi un match à suivre sur notre antenne de RJB, donc très bon match à vous et bonne chance pour votre équipe.
Ouais, merci, on a besoin de points donc j'espère qu'ils vont venir très fort.
Merci beaucoup, bonne soirée à tous.
Cap Sport.
Et on a appris hier la retraite d'une icône du tennis suisse, Yannick, vous le savez sans doute, Martina Hingis, qui va en effet donner ses derniers coups de raquette au Masters de Singapour qui se joue actuellement. Et après, ce sera la fin d'une aventure professionnelle de 23 ans. Les adieux officiels sont prévus après le dernier match de la Suissesse. Elle espère que ce sera dimanche pour la finale. Et des adieux qui vont sans doute beaucoup émouvoir Mathieu Schaffner, qui a voulu rendre un dernier hommage à Martina.
Merci Martina pour tout ce que tu as fait. Ces mots, ce sont ceux d'un certain Roger Federer. Le maître les a lâchés hier à Bâle en marge des Swiss Indoors et on ne peut que lui emboîter le pas. Tous les amoureux de sport ne peuvent être qu'admiratifs devant le talent, le palmarès et la longévité de Martina Hingis. Du talent donc tout d'abord, il en faut une sacrée dose pour entamer une carrière professionnelle à tout juste 14 ans. Oui, 14 ans, la Saint-Galloise était encore une gamine lorsqu'elle s'est lancée raquette en main. Elle était à peine plus vieille au moment de soulever son premier trophée en grand chelem, c'était le double dame de Wimbledon en 1996. Martina Hingis avait alors 15 ans et 9 mois. 7 mois plus tard, elle s'illustrait en simple en remportant l'Open d'Australie. Avant de devenir numéro 1 mondial à 16 ans et 6 mois, on ne peut que s'incliner devant tant de précocité. Son palmarès n'a depuis cessé de se remplir. Attention, tenez-vous bien, ça donne le vertige. 25 titres du grand chelem, 89 autres sur le circuit WTA, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, ceci sans oublier ses 209 semaines en tant que numéro 1 mondial en simple et ses 70 semaines en tant que numéro 1 mondial en double. C'est tout simplement ahurissant. Et la longévité de Martina Hingis inspire aussi le plus grand respect. Amoureuse de son sport, elle a vécu 3 carrières, réussissant à chaque fois ses comebacks, là où bien d'autres se sont brûlés les ailes. La Saint-Galloise a sans conteste permis au tennis féminin de se développer. Elle a poussé de nombreuses jeunes filles à se lancer dans ce sport en Suisse. Son départ va laisser un sacré vide. Mais allez, avant d'y songer, il est encore temps de rejoindre Roger Federer et de dire tout simplement « Merci Martina ».
Cap Sport.
C'est parti pour cette deuxième partie d'émission. On a accueilli déjà pas mal de runners de trailer dans cette émission et c'est le cas encore ce soir, oui, puisqu'un Jurassien s'est illustré sur le Grand Raid de La Réunion le week-end dernier avec une belle 55e place. Ryan Baumann est avec nous ce soir. Bonsoir Ryan.
Bonsoir.
Alors, 55e en individuel, 3e par équipe avec la formation suisse. Le grand raid de La Réunion, c'est quand même 167 km, pratiquement 10 000 mètres, 9 917 mètres de dénivelé positif. C'est un des ultra-trails les plus durs au monde. Ryan Bowman, est-ce que ce surnom de Diagonale des Fous est justifié? Est-ce que c'est vraiment, pour reprendre une expression, un truc de taré?
Oui, quand même un peu, hein, parce que de temps en temps, pendant la course, je me demandais qu'est-ce que je faisais par là. Donc, oui, des fois, on se dit, faut le vivre pour croire. Les chemins, c'est quand même assez différent de chez nous, c'est assez costaud, hein. Des fois, il y a pas de chemin, c'est la jungle. Donc, ouais, c'est assez fou, hein, par rapport à ce que j'ai fait auparavant, c'est assez différent et c'est costaud, quoi.
Ryan, ce qui m'a impressionné, c'est que je suis allé sur le site du Grand Raid, hein, qui est le nom officiel de la Diagonale des Fous, pour regarder les résultats. Et puis, j'ai vu le nombre de concurrents qui n'ont pas fini l'épreuve. Il y en a des pages et des pages. C'est vraiment impressionnant. Et puis, je lisais aussi une interview du vainqueur de l'épreuve, Benoît Girondel, qui a fini, mais complètement oxy. Et puis, plus du tout lucide, presque à la fin. Est-ce que vous avez vu autour de vous, quand vous avez couru, vraiment des gens dans une détresse physique? Est-ce qu'on passe par ces moments-là?
Bon, de mon côté, ça s'est bien passé parce que je l'avais bien préparé. Puis le risque dans ce genre de course, c'est de partir trop vite. Donc, moi, j'étais parti dans un rythme pour finir. Donc, c'était bien allé. Mais cette année, je crois que le taux d'abandon, il est encore assez bas par rapport aux autres années parce qu'on a été épargné par la météo, la pluie. D'habitude, on a toujours la pluie au début. Au début de course, la pluie, le froid, et puis ensuite c'est très humide, le chaud. Donc cette année, ça allait encore. Je crois qu'il y a juste 35% d'abandon, alors que les autres années, il y a 50%. Alors, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les arrivées le dimanche, le dernier jour, il y a des gens qui sont vraiment dans un sale état.
Ryan Bowman, vous avez terminé la course en 32h26. Les meilleurs terminent en 23h et quelques brouettes. Comment vous jugez votre performance sur cette course? Content?
Oui, je suis très content parce que bon, je m'étais pas fixé de temps, de chrono. Je m'étais juste fixé d'y arriver parce que c'était la troisième fois que j'y allais et puis j'avais eu deux fois où j'ai pas réussi à rallier l'arrivée. Donc, j'étais dans les 10 premiers à la moitié de course. Les deux fois, je suis allé. Donc, j'avais pris des risques pour faire un classement, un chrono. Et puis, cette année, comme c'est pas la porte à côté et puis qu'on fait pas ce genre de course tous les jours, j'avais vraiment envie de rallier l'arrivée. Donc, justement, comme j'ai dit avant, j'ai pris un rythme tranquille dès le début. Ça m'a permis de finir. Même si c'était très dur sur la fin, les 40 derniers kilomètres où il faut vraiment être fort dans la tête parce qu'on a mal tout partout et comme je dis, il n'y a pas de chemin, c'est toujours en haut en bas, dans des cailloux. Mais je suis content de mes 32 heures, content d'être surtout arrivé et puis le classement, le chrono, ça n'a pas moins d'importance.
Ryan Bowman, alors on a voulu en savoir un petit peu plus sur vous et pour ce faire, on a allé chercher parmi vos compagnons, notamment votre compagnon de course de toujours, Yann Balducelli, le Valaisan. Vous avez fait ensemble, par exemple, il y a 2 ans, la traversée du Valais, 350 km en 101 heures. On voulait donc en savoir un peu plus sur votre duo. Du coup, c'est Noémie qui a passé son coup de fil à Yann Balducelli.
En fait, avec Ryan, on est deux coureurs. Alors lui, il est jurassien d'origine, mais il habite en Valais. On est un petit peu dans les tout premiers Valaisans à avoir pratiqué l'ultra-endurance. Donc on se côtoyait régulièrement sur toutes les courses. Et puis, il y a eu cette fameuse année 2014 sur la X-Alpine où on avait décidé de courir un peu ensemble, de faire des relais, de s'aider mutuellement. Et puis, on a fini cette course main dans la main, au troisième rang. Et Ryan avait fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que dans la dernière montée qui nous conduisait avant la descente finale sur Verbier, j'avais craqué quoi complètement et puis il a fait le geste de m'attendre pour finir cette course main dans la main ensemble.
Donc en fait c'est le sport qui vous a rapproché, mais en dehors du sport vous êtes aussi amis dans la vie.
cet épisode de Verbier là où en fait je connaissais le champion mais je connaissais pas forcément l'homme, nous a vraiment reliés et puis on est devenus amis depuis. C'est aussi à partir de là qu'on a décidé de faire cette traversée du Valais ensemble.
Alors justement, cette traversée du Valais, 101 heures, 350 kilomètres. Alors soit on se tape dessus, puis on se déteste et chacun rentre chez soi, soit on est amis pour la vie après, j'imagine. Là, vous l'avez fini, donc tout va bien entre vous.
Oui, exactement. Et puis je pense que ce qu'il faut dire, c'est que on l'a réussi, mais pas du premier coup. On a fait une première tentative en 2014, tentative qui avait avorté après 200 kilomètres. Voilà, un projet comme ça aussi qui capote, si j'ose dire, pourrait mettre à mal une relation qui n'est pas très solide. Et puis là, nous, au contraire, ça nous a renforcé, ça nous a donné envie de repartir, de corriger nos erreurs ensemble et puis de réussir ce projet.
Ryan ne savait pas jusqu'à il y a quelques minutes qu'on vous appelait. Si vous aviez un mot à lui dire ou lui rappeler une anecdote ou quelque chose, ce serait quoi ?
Alors, est-ce que tu te rappelles cette fameuse première Transvalaisanne et cette première descente sur Guéret où on s'est trompé et ça a été vraiment la cata, on a vécu quelque chose de compliqué les deux ensemble. Et puis après, bah, je lui rappellerai, voilà, ces deux arrivées à Verbier, main dans la main, tu te souviens, je pense qu'il s'en souvient autant que moi. C'était juste magnifique, fabuleux, j'espère qu'on en aura d'autres comme ça. Et puis cette arrivée à Saint-Denis, là, il y a quelques jours, c'est tout frais, avec une douche au champagne, entouré de notre famille, c'était fabuleux. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais rappeler de ce qu'on a vécu ensemble.
Finalement, Ryan Bowman, on dirait un couple qui parle de ses souvenirs de vacances un petit peu.
Oui, ça fait plaisir d'entendre Yann. Hein. C'est vrai qu'on a vécu des bons moments ensemble, en course ou même lors de cette aventure, cette Transvalaisanne. C'est vraiment, on s'entend bien, on a la même passion. Au niveau de la famille aussi, on a un peu aussi deux enfants et... Non, c'est vraiment sympa quoi d'avoir pu faire cette Diagonale des Fous avec lui où on se sent quand même plus en sécurité, même si c'est une course individuelle, cette Diagonale des Fous, on se sent quand même plus en sécurité à deux parce que dans la nuit, il y a vraiment des fois où on n'était pas sûr du chemin, on se disait c'est où et puis seul, ça fout les boules, comme on dit. Donc, avec Yann, on s'est bien entendu. Et on sait, il n'y a pas besoin qu'on se parle beaucoup. On a le même rythme, et ça va super, quoi.
Est-ce que, on peut en parler peut-être. Est-ce que vous avez des prochains défis ensemble ? Il y a des projets déjà, des idées ?
Alors, oui, on en a parlé. On a un projet commun, peut-être de refaire le retour de cette Transvalaisanne par l'autre rive du Rhône. Donc,
et en explosant le chrono.
Non, le chrono, c'est secondaire, c'est pas le but. Ce sera toujours de vivre l'aventure. Mais on avait fait Fourca-Saint-Gingolf, et pourquoi pas faire Saint-Gingolf-Fourca, mais sur l'autre versant, donc côté Ovrona, Montana, Loëche-les-Bains. On est en train de tracer le parcours, on va faire des recos et puis on le fera quand on aura envie. Quoi. On n'est pas stressé, mais ça, c'est un des projets. Et voilà.
Et bon, on suivra ça de près. Merci beaucoup, en tout cas, Ryan Bowman, d'être venu nous parler un petit peu de votre excursion à La Réunion.
Et si je me permets, je voulais remercier notre assistance de choc à La Réunion. Hein. On avait Gabi Beuchat avec ma maman, ma sœur, Marion et Philippe, son copain. Donc c'était une assistance de choc. Et puis sans eux, je crois qu'on n'aurait pas réussi. Donc eux aussi, c'était leur aventure. Ils ont souvent fait la nuit blanche. Ma sœur, elle a été randonnée dans Mafat, donc dans le cirque de Mafat, pour nous ravitailler. C'est une sacrée aventure. Donc bravo à eux et merci à eux. C'était sans eux, on ne serait pas arrivé. Voilà.
Le message est passé. Merci beaucoup Ryan Bowman encore d'avoir accepté
merci
notre invitation.
Vous, hein. Très bonne soirée. Salut à tout le Jura, les Ajoulois et puis à Pierre Alavala aussi qui organise le trail du Pitchisson. C'est un trail que j'ai participé au mois d'avril et qui m'a préparé pour cette Diagonale des Fous et que j'encourage tous les Jurassiens à courir au mois d'avril au trail Pitchisson. Voilà.
Le message est passé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet. Très belle soirée, bon week-end et à vendredi prochain.
Bonne soirée à tous.
Cap Sport.